Salutations, mes frères. J'espère que vous passez un merveilleux et fructueux jour du sabbat. C'est une période de transition, je pense, entre le printemps et l'hiver, ou entre l'hiver et le printemps, selon la façon dont on voit les choses ici, au siège. Espérons que le temps commence enfin à changer pour de bon. Mais c'est le printemps, et tout le monde a beaucoup de choses en tête. Le retour du Christ, les préparatifs, tant d'éléments auxquels vous pensez. Certains sont sérieux, d'autres moins, mais je voudrais vous brosser un tableau avant d'aborder le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Toutes sortes de situations dans lesquelles vous vous retrouvez ou dans lesquelles les gens se retrouvent, vous pouvez les classer comme très sérieuses, sérieuses, légères, ludiques. Il y a toute une variété de choses. Mais si vous faites quelque chose de très sérieux, vous essayez généralement, nous essayons tous généralement, de ne pas faire de suppositions. On inspecte et on vérifie. Si vous achetez une nouvelle voiture, vous la faites contrôler, vous voulez vous assurer qu'elle est en bon état. Si vous achetez une maison, vous faites appel à un inspecteur immobilier. Vous passez en revue tous les détails de ce processus parce que vous voulez le faire avec soin. Mais il y a un domaine particulier qui semble presque routinier et que nous rencontrons tout le temps. Avez-vous déjà pris l'avion, en particulier sur des compagnies aériennes commerciales? Il y a toutes ces procédures que vous suivez une fois que vous avez passé la sécurité, une fois que vous êtes dans l'avion. Je ne parle pas de cette partie-là, mais vous êtes assis sur le tarmac dans votre siège. Il y a des vérifications qui se déroulent dans le cockpit et autour de l'avion sans même que vous vous en rendiez compte. Tout le monde vérifie les instruments, le carburant et les systèmes. Et vous ne vous sentiriez pas très en confiance si vous entendiez le pilote passer à la onomatopée, s'adresser aux passagers. Onomatopée, ici votre pilote, et qu'il disait, vous savez quoi? Tout le monde, on a juste sauté nos vérifications cette semaine. L'avion a très bien volé il y a 2 semaines. On va en quelque sorte supposer que tout ira bien aujourd'hui. Une fois que vous auriez entendu cela, je pense que vous vous agripperiez un peu à votre siège, n'est-ce pas? Vous vous diriez, oh, pourquoi ai-je choisi cette compagnie aérienne? C'était bon marché, mais... Et puis, imaginez que cela continue et qu'un des agents de bord se dirige vers l'avant, qu'il ou elle jette un coup d'œil et dise, bon, vous connaissez tous la chanson, alors ne vous en faites pas. Les avions ne s'écrasent pas. Profitez bien de votre vol. À ce moment-là, vous regarderiez la porte de sortie en vous demandant, l'ont-ils fermée? Car ce n'est pas parce que quelque chose est familier, et que vous pourriez probablement réciter dans votre tête exactement ce qu'il vérifie, les ceintures de sécurité, et le fait de mettre le masque sur votre visage avant le. Tout cela relève presque de la routine, même si c'est vous qui prenez l'avion, sans parler de l'hôtesse de l'air, des pilotes. Etc. Mais ce n'est pas parce que c'est familier qu'on n'a pas besoin de se préparer, ou qu'ils n'ont pas besoin de se préparer. Toutes ces choses sont familières. C'est une liste de contrôles. Si vous faites quelque chose de manière routinière, vous avez une liste de contrôles, cela peut devenir familier, mais vous devez quand même passer par les vérifications. Vous devez toujours savoir ce que vous faites dans ces situations, même si elles sont en quelque sorte routinières. Et ce n'est pas parce que c'est routinier, parce que cela a été fait tant de fois, des dizaines de milliers de vols par jour aux États-Unis et dans le monde entier, que cela rend ces étapes moins importantes ou moins cruciales. En fait, quand quelque chose nous est familier, on peut en arriver à un point où l'on devient négligent et où l'on ne se concentre plus sur les vérifications, la préparation et tous les détails qui doivent être pris en compte. Plus nous répétons un processus, plus il est facile de supposer, que ce soit pour vous et moi, pour un steward ou un médecin, ou dans n'importe quel domaine où le processus ou la procédure est extrêmement important, qu'il n'est pas nécessaire de refaire les vérifications. Nous n'avons pas besoin de creuser plus loin. C'est la nature humaine. Cela nous incite à nous détendre lorsque les choses nous semblent familières. Remettez-vous dans cet avion. Parfois vous écoutez, parfois vous vous déconnectez, mais il y a une confiance tranquille lorsque vous les entendez suivre la procédure, car vous savez qu'ils ont tout vérifié. Les choses sérieuses ne deviennent pas moins sérieuses simplement parce qu'elles nous sont familières. Sur le plan spirituel, vous et moi, nous courons le même danger. Nous voyons la Pâque approcher. Si c'est votre première Pâque, ce message vous aidera d'une manière différente, car il porte sur la préparation, sur le fait de se plonger dans le sujet et d'y être prêt. Si c'est votre 100e, votre 50e, votre 20e ou peu importe la Pâque, cela peut être bien plus dangereux parce que nous l'avons vécu tant de fois. Vous connaissez la saison, vous connaissez les détails, vous connaissez la signification des symboles, vous connaissez tous les aspects sur lesquels nous sommes censés nous examiner, vous savez à quel point c'est sérieux, et pourtant, ce qui peut arriver, c'est que vous et moi laissions cela devenir une routine, que nous en arrivions à un point où nous ne faisons pas preuve de la diligence requise. Nous pouvons supposer que nous sommes prêts à célébrer la Pâque même si nous n'avons pas fait le travail nécessaire pour nous y préparer. Dieu nous dit clairement de ne pas présumer. Il nous dit de nous examiner nous-mêmes. Ainsi, avant de célébrer la Pâque, nous ne pouvons pas nous fier à l'habitude, à la mémoire ou à la familiarité. Il nous est ordonné de nous arrêter, de nous examiner, d'observer attentivement et honnêtement notre condition spirituelle actuelle devant Dieu. Donc, encore une fois, avant de le faire, nous devons nous examiner à la lumière des normes de Dieu afin de voir notre état et de répondre par une repentance réelle et spécifique dans les domaines où nous constatons que nous sommes en défaut. Bon, notre premier point ici, vous pouvez ouvrir votre Bible à 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens, chapitre 13. Une fois que vous y êtes, 2 Corinthiens, chapitre 13. Notre premier point est que nous devons nous examiner à la lumière des critères de Dieu, et non par comparaison humaine. C'est très facile à faire. Je vais donc le répéter si vous souhaitez le noter. Nous devons nous examiner à l'aune de Dieu, et non par comparaison avec les autres. Ainsi, nous ne commençons pas la Pâque, nous ne commençons pas notre préparation à la Pâque en nous demandant « Comment je m'en sors par rapport à Joe ?» Peut-être que Joe est votre ami, que vous vous entendez bien, et que vous pensez « Eh bien, il a des problèmes spirituels dont je suis au courant. » Non, ce n'est pas la bonne approche. Il ne s'agit pas de me comparer à Joe, à Sally ou à n'importe qui autour de nous. Il s'agit de savoir si je suis à la hauteur de ce que Dieu attend de moi dans ma vie chrétienne, avec mes faiblesses, mes forces, mes victoires et tout ce que je dois accomplir. Encore une fois, 2 Corinthiens, chapitre 13, à partir du verset 3. Le verset 3 dit « Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, ce qui, à votre égard, n'est pas une faiblesse, mais une puissance en vous. Car bien qu'il ait été crucifié par faiblesse, il vit par la puissance de Dieu. Car nous aussi, nous sommes faibles en lui, afin de vivre avec lui par la puissance de Dieu envers vous. » Verset 5. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous à l'épreuve. Ne savez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés? C'est une déclaration assez forte. Nous avons commencé fort dès le tout début du message. Dieu dit, examinez-vous, creusez en profondeur. Et le sens du mot est tout aussi fort. et nous devons regarder, examiner et voir si quelque chose est fondamental. On pourrait penser que pour savoir si vous ou moi sommes dans la foi, il faudrait que vous vous examiniez. Eh bien, je vais aux offices, je paye ma dîme, je ne mange pas de sandwich au jambon. Vous pensez peut-être, et je pense peut-être, qu'il est évident de savoir que nous sommes dans la foi, mais Dieu dit, non, nous devons nous examiner nous-mêmes, puis nous devons le prouver. Pas envers Joe, ni Sally, ni personne d'autre, mais les uns envers les autres et envers nous-mêmes devant Dieu. Nous devons savoir que nous l'avons prouvé, et Dieu l'attend de nous. C'est un commandement personnel. Il ne s'agit pas de juger quelqu'un d'autre, ni de se demander, « Te sens-tu à l'aise dans ta foi chrétienne ?» Ce serait tout autre chose. Chaque fois que vous faites quelque chose sur une longue période, que vous travaillez un muscle, que vous faites un exercice, que vous apprenez un passe-temps, quand vous le faites assez longtemps, vous finissez par vous y sentir à l'aise. Si vous essayez de faire plus de traction et que vous arrivez aux pointes où vous vous dites « Tu sais quoi ? Je veux en faire 10 ou 20, ou peu importe le nombre. » À un certain moment, vous atteignez cet objectif, et si vous continuez à vous entraîner, cela devient plus facile et plus naturel. Quoi que ce soit, courir sur une longue distance, apprendre à jouer d'un instrument, apprendre une langue, vous vous sentez plus à l'aise avec le temps. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans le christianisme. Vous pouvez vous sentir à l'aise en vivant de cette manière parce que vous y êtes habitué. Ça n'a aucun sens, surtout si vous le faites depuis des années, de vous dire, tu sais quoi? C'est tellement dur de ne pas aller manger un sandwich au jambon, ou tu sais quoi? Cette côte de porc me ferait vraiment du bien, non. C'est une routine. On ne pense même pas à ce genre de choses. Nous devons le prouver. Nous devons creuser, tester et nous examiner véritablement, en profondeur, d'une manière que nous ne faisons généralement pas le reste de l'année. Vous le faites peut-être 2 ou 3 fois par an lorsque vous commencez vraiment à vous concentrer, mais à l'approche de la Pâque, il est d'une importance cruciale de vraiment comprendre où vous et moi en sommes spirituellement, et d'être ensuite en mesure d'apporter les corrections nécessaires avant de prendre ces symboles. C'est important. Restez dans la deuxième épître aux Corinthiens, mais revenez au chapitre 10. Quelques chapitres en arrière. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, nous commencerons au verset 7. À partir du verset 7 de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, regardez-vous les choses selon l'apparence extérieure? C'est une question qui s'adresse à nous tous. Si quelqu'un se fie à lui-même en pensant qu'il appartient au Christ, qu'il réfléchisse à ceci, de même qu'il appartient au Christ, nous aussi nous appartenons au Christ. Nous appartenons tous au Christ. Car même si je devais me glorifier un peu plus de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour l'édification, et non pour votre destruction, je n'aurais pas à en rougir, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Paul était un écrivain puissant. Car, dit-il, ses lettres sont pesantes et puissantes. Mais sa présence physique est faible, et son discours méprisable. Sa force résidait donc dans l'écriture, et non lorsqu'il se tenait derrière le pupitre. On ne le croirait pas quand on pense à la puissance de cet homme, à ce qu'il a fait et enseigné, et à la façon dont il a vécu. Que celui-là pense ceci, que, tel que nous sommes en parole par nos lettres quand nous sommes absents, nous le sommes aussi en acte quand nous sommes présents. Ne soyez pas hypocrites. Car nous n'osons pas nous compter parmi eux, ni nous comparer à certains qui se vantent eux-mêmes. Nous ne pouvons pas nous comparer à ceux qui réussissent et nous dire, « Ah, je ne suis pas à la hauteur. » Regardez Johnny là-bas. Johnny s'en sort si bien. Il vient de faire un commentaire ou il vient de faire ce petit plus. Non, nous ne nous comparons pas de ce côté-là, ni dans l'autre sens. Oh, je connais Bill, il a des problèmes. Moi, je m'en sors très bien, en tant que chrétien, je suis un excellent chrétien parce que, tu sais quoi? Je m'en sors mieux que Bill. Désolé, à tous les Bill, je ne vous compare pas. Je ne pense pas qu'il y en ait dans l'assistance, du moins aujourd'hui. Comparons-nous, continuons ici, car ceux qui se mesurent à eux-mêmes et se comparent entre eux ne sont pas sages. Ce n'est pas une chose sage à faire. Nous ne pouvons pas utiliser l'apparence extérieure ou ce que les autres font ou ne font pas, cela vaut dans les deux sens, comme critère, comme jauge pour déterminer si nous vivons le christianisme efficacement, ou comme nous le verrons plus tard, en tant que, dignement, correctement. Avant de pouvoir célébrer la Pâque, nous devons nous assurer de ne pas laisser l'ancienneté dans l'Église, le rang, la fonction, la connaissance, la stabilité, les épreuves, la conduite visible, l'âge, aucun de ces facteurs n'a d'importance lorsque vous vous examinez vous-même. Ce que font les autres n'a pas d'importance. J'adore cette expression, j'ai toujours eu l'intention de la rechercher, mais chaque tonneau repose sur son propre fond. En tant que chrétien, cela est on ne peut plus vrai. Nous devons vivre et travailler ensemble, et c'est ainsi que l'on devient plus efficace en tant que chrétien, mais en fin de compte, l'aune à laquelle nous nous mesurons, surtout à cette période de l'année, dépend entièrement de notre relation intérieure avec notre Créateur. Nous ne pouvons laisser rien d'autre brouiller cette relation individuelle où nous accueillons la parole de Dieu dans la prière, l'étude et le jeûne, et apprenons à comprendre comment Dieu nous voit, en écartant les distractions extérieures. Passons à Galates, chapitre 6. Galates 6. Insistons bien sur ce point. Rappelez-vous, nous ne regardons pas les autres, nous nous regardons nous-mêmes. Nous devons utiliser la mesure de Dieu. Donc, Galates 6, verset 3, nous commencerons au verset 3, car si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Je pense que nous pouvons tous dire que nous connaissons au moins une, deux ou trois personnes qui se prennent pour quelqu'un alors qu'elles ne le sont peut-être pas. Espérons qu'elles ne soient pas chrétiennes, ou qu'elles ne soient pas converties, mais on croise ce genre de personnes tout le temps. Verset 4. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi se réjouir pour lui-même seul, et non pas à l'égard d'autrui. Si nous prouvons que nous faisons ce qu'il faut, si nous identifions les points à améliorer et que nous les corrigeons, oh, nous devrions être enthousiastes, joyeux, car Dieu nous montre les domaines à examiner et nous prenons l'initiative de les améliorer. Verset 5 de ce même passage, car chacun portera son propre fardeau. Chaque tonneau repose sur son propre fond. Nous devons examiner notre propre travail. La préparation de la Pâque, l'examen de la Pâque, est une quête profondément personnelle. Je ne peux pas vous examiner et vous ne pouvez pas m'examiner pour vous assurer que chacun de nous est prêt. Je peux prêcher un sermon sur le sujet, mais je pourrai approfondir cela, et nous le ferons, tous les différents aspects de son importance, ce que nous devrions faire, mais vous et moi devons ensuite aller le faire. C'est là la clé. Il ne s'agit pas seulement de l'entendre, mais de le faire réellement, car sinon nous ne nous examinons pas nous-mêmes. Nous sommes pris dans la routine. Nous sommes à l'aise dans ce schéma. Nous partons du principe que nous sommes dans une situation où nous pouvons accepter les symboles. C'est une position dangereuse. Nous ne pouvons jamais présumer de quoi que ce soit dans notre cheminement chrétien. Allez au chapitre 1 de l'épître de Jacques. Chapitre 1 de Jacques, à partir du verset 21. Le verset 21 dit, c'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout excès de méchanceté, j'adore ce mot, et recevez la parole de s'il est implanté, qui est capable de sauver vos âmes. Verset 22, mais soyez aussi des pratiquants de la parole, et non pas seulement des auditeurs, vous trompant vous-même. Si nous nous contentons d'écouter, si nous prenons cela en compte, et si j'écoute ce que je me dis à moi-même, si nous nous contentons de l'entendre et de le prendre en compte sans passer réellement à l'action, Dieu dit que nous nous trompons nous-mêmes. En fait, nous nous mentons à nous-mêmes, même si nous assistons aux offices du sabbat, si nous payons notre dîme, si nous faisons toutes les autres choses, mais si nous ne prenons pas ce processus d'introspection au sérieux, Dieu dit, c'est très bien. Tu es un serviteur inutile, car nous ne sommes pas allés plus loin et nous ne nous sommes pas réellement examinés ni préparés. C'est tellement crucial. Verset 23, car si quelqu'un est un auditeur de la parole et non un pratiquant, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Ou qui se regarde dans un miroir. Car il se regarde, puis s'en va, et oublie aussitôt quel genre d'homme il était. Mais celui qui scrute la loi parfaite de la liberté, la parole de Dieu, la Bible, et qui y persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un pratiquant de l'œuvre. Pas seulement la parole, mais un pratiquant de l'œuvre. Il faut du travail pour s'examiner soi-même. Cet homme sera béni dans son action. La parole de Dieu est un miroir qui nous aide à voir les domaines où, vous savez quoi? Vous avez une bonne journée capillaire. Vous tenez ce miroir. Messieurs, mesdames, tout le monde le sait. Vous pouvez vous regarder dans le miroir parce que, c'est comme cela. Si vous êtes un homme, c'est un peu plus facile. Ma femme et moi, on en rigole souvent, parce que la plupart des hommes peuvent s'approcher d'un miroir et dire, « Tiens, regarde cela. J'ai un boutonneau là. C'est marrant, puis s'en aller. » Les femmes, elles, s'approchent du miroir et disent, « Oh, comment ma peau a-t-elle pu se dégrader si vite? Qu'est-ce que j'ai mangé ?» Oui, c'est le pouvoir de la testostérone, je suppose. Mais on peut tous avoir le même problème, hommes, femmes, tout le monde. Vous vous approchez de ce miroir et vous vous dites, « Bon, cela a l'air bien, ou cela a l'air mauvais, ou cela, peu importe le cas, et vous pouvez vous éloigner du miroir sans y repenser. » Vous vous dites peut-être, « Oh, je dois me brosser les cheveux, mais quelque chose vous distrait. » Vous vous éloignez du miroir et vous oubliez que vous avez l'air en pagaille. Mais la parole de Dieu devient ce miroir spirituel qui nous permet de regarder et de dire, « Bon, waouh, je m'en sors bien là. Je dois travailler sur ce point. Tu sais quoi? Parfois, je me mets trop en colère. J'ai de la convoitise. Mais tu sais quoi? J'ai beaucoup servi. Il ne s'agit pas seulement de trouver les mauvaises choses, car cela est tout simplement déprimant. Si on se contente de regarder, c'est là que j'ai échoué, c'est là que j'ai échoué, c'est là que j'ai échoué, alors on commence à se sentir comme des ratés, et pas seulement comme ayant des défauts. Mais si on examine l'ensemble de notre cheminement chrétien, et qu'on se dit, tu sais quoi? Je m'en sors très bien là. Je m'en sors très bien là. Ça, cela demande un peu de travail. Mais ensuite, on aborde les domaines où l'on doit changer davantage, et cela devient plus équilibré. C'est exactement comme l'évaluation d'un club de prise de parole. Lorsque nous évaluons des orateurs, nous leur donnons des points à corriger et des moyens de changer et de s'améliorer, mais nous soulignons aussi ce qu'ils ont bien fait. Et votre examen spirituel devrait refléter cette approche. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de nos sentiments personnels. Il ne s'agit pas des souvenirs. Ce ne sont pas les comparaisons, ni même la façon dont les gens vous perçoivent en public. La norme à laquelle nous nous mesurons, pas seulement à cette période de l'année, mais particulièrement à cette période de l'année, c'est la parole de Dieu, la loi parfaite de la liberté. Et une fois que nous avons la bonne mesure, une fois que celle-ci est établie et en place, la question suivante qui vient à l'esprit est tout à fait naturelle. Qu'est-ce que cette mesure a révélé? Car Dieu ne s'arrête pas à notre conduite extérieure. Vous êtes peut-être un peu laxiste le jour du sabbat ou autre, non, il va plus loin. Il veut que nous allions plus en profondeur et que nous regardions l'homme intérieur, pas seulement ce concept extérieur. Car une fois que nous avons la bonne mesure, une fois que nous commençons à mesurer, nous commençons à voir les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer. Nous commençons à voir des aspects de notre caractère qui ont peut-être un peu dérapé au cours de l'année écoulée depuis la dernière fois que nous avons célébré la Pâque. Donc, deuxièmement, Dieu examine le cœur, pas seulement le bilan. Dieu examine le cœur, pas seulement le bilan. Qu'est-ce que j'entends par là? Si vous êtes chrétien depuis 5, 10, 15, 20, 30 ou 50 ans, vous avez un bilan. Ce parcours compte, mais il ne signifie rien si vous abandonnez ce mode de vie. C'est donc une chose triste. J'ai observé au fil des ans des personnes qui ont vécu toute leur vie en tant que chrétiens, même lorsqu'elles ont pris de l'âge, dans la cinquantaine ou la soixantaine, et qui ont peut-être été appelées à la fin de leur adolescence, ou qui ont été élevées dans l'Église, et ont donc été baptisées lorsqu'elles étaient au début ou à la fin de leur adolescence, ou au début de la vingtaine. Et ils ont servi, et ils ont servi, et ils ont fait des choses, et ils avaient un parcours. Et à un moment donné, ils ont abandonné et sont partis. Ce parcours ne signifie rien si notre cœur n'est pas droit. Car c'est cela qui détermine la bonne attitude chrétienne, notre orientation, ce sur quoi nous travaillons, comment nous grandissons, ce que nous développons. C'est ce qui se passe dans notre cœur et dans notre esprit, car c'est là que le péché commence. Il commence dans le cœur et dans l'esprit, puis il se manifeste à l'extérieur. Dieu veut connaître nos motivations, nos intentions, nos peurs, ce que nous aimons. Ce qui motive notre conduite extérieure est ce qu'il veut évaluer. Passons maintenant à l'Ancien Testament, au premier livre de Samuel, chapitre 16. Premier livre de Samuel. Premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 6, nous allons commencer. Premier livre de Samuel, chapitre 16, et il arriva, lorsqu'ils furent venus, qu'il regarda Éliab et dit, assurément, loin de l'Éternel et devant lui. Vous savez, ce récit, où l'on cherche à savoir qui sera le prochain roi, en faisant venir tous les fils. Verset 7. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son apparence ni à la hauteur de sa stature, car je l'ai rejeté. Ce n'est pas une question de taille, de beauté physique ou de prestance, de son apparence extérieure, de ce que les gens voient, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne regarde pas comme l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu va plus en profondeur. Il voit où se trouvent les motivations, les intentions et les désirs. Car savez-vous ce que vous et moi pouvons faire? Et c'est facile à faire. Nous pouvons tromper les gens. Si nous voulons vraiment feindre ce mode de vie, si nous voulons avoir des péchés secrets ou mener une double vie, ou quoi que ce soit d'autre, nous pouvons tromper les gens. Nous pouvons tromper le ministère. Nous pouvons tromper nos amis. Nous pouvons tromper à peu près n'importe qui autour de nous si nous voulons jouer ce jeu. Mais nous ne pouvons pas tromper Dieu. Nous ne pouvons pas le duper, car il ne regarde pas l'apparence extérieure. Il ne regarde pas ce qui pourrait être une apparence fausse et hypocrite. Non, il regarde le cœur. Il voit ce qui se passe à l'intérieur, les véritables désirs, les motivations. Samuel a commis une erreur. Il a dit, regarde cela. Ça doit être celui-là. Regarde comme il a fière allure. Et Dieu a répondu, non, ce n'est pas ce que je recherche. Nous devons nous rappeler que nous pouvons paraître forts tout en étant dans l'erreur à l'intérieur de nous-mêmes. Nous pouvons encore avoir des problèmes en nous, là où Dieu essaie de regarder. Passons au chapitre 21 des Proverbes, continuons ici, Proverbe 21. Encore une fois, souvenez-vous que Dieu examine le cœur, pas seulement notre dossier. Proverbe 21. Le dossier est important. Le bilan, c'est ce que vous avez mis en place pour savoir combien de joyaux compte votre couronne, vos actes de service, votre volonté de grandir, votre aide et votre service, et toutes les choses que nous faisons en tant que chrétiens. C'est important. Mais si notre cœur s'assombrit, cet enregistrement est perdu. C'est un peu comme si vous portiez sur vous un long enregistrement. C'est léger. C'est formidable. Vous marchez avec. Mais si notre cœur s'assombrit, il s'évapore comme s'il n'avait jamais existé, ce dossier se désintègre tout simplement. Nous ne voulons pas cela. Nous voulons pouvoir être en paix à l'intérieur. Ainsi, tout le travail que nous avons accompli pour vivre correctement, pour mener cette vie, aura de l'importance lorsque nous nous tiendrons devant le tribunal et que nous dirons, voici mon dossier, et voici mon cœur, car je l'ai examiné. Proverbe 21. Vous y êtes probablement déjà. Verset 1. Le cœur du roi est entre les mains de l'Éternel, comme les cours d'eau, il le dirige où bon lui semble. Verset 2. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses propres yeux, mais l'Éternel pèse les cœurs. Verset 3. La justice et le jugement sont plus agréables à l'Éternel que les sacrifices. Un regard hautain et un cœur orgueilleux, les le labour des méchants, sont un péché. Il y a une différence entre la façon dont nous nous évaluons et la façon dont Dieu nous évalue. C'est pourquoi nous devons nous tourner vers la loi parfaite de la liberté, nous plonger dans la parole de Dieu pour nous examiner nous-mêmes, car si nous ne le faisions pas, si nous nous contentions de dire, tu sais quoi? Je vais réfléchir à qui je suis et à ce que je ferai, et nous le ferions tous de différentes manières, mais tu trouverais quelque chose, je ferais la même chose, quelque chose pour lequel je pense ne pas être très doué. Et je choisirais un point facile en me disant, oh oui, je dois travailler là-dessus. Tu sais quoi? Au lieu de 30 minutes de prière, je devrais vraiment prier 33 minutes le matin. Oui. Tu sais, c'est juste que ces derniers temps, cela a été 29. Je dois vraiment passer à 32. Et puis, voilà. J'ai fait le point. Je suis prêt à célébrer la Pâque, car toute voie de l'homme est droite à ses propres yeux. C'est notre tendance naturelle de supposer que nous avons raison. Nous devons donc nous arrêter, faire une pause, examiner la situation à l'aide de la parole de Dieu pour la déterminer, pour examiner nos cœurs, si vous voulez, en utilisant cette règle. Car par nature, nous avons un cœur orgueilleux. De par la nature humaine, notre cœur est orgueilleux, et il nous mentira là où nous devons nous améliorer. Et nous ne pouvons pas laisser cela se produire, quelle que soit la situation dans nos vies. Car si nous le laissons nous mentir, nous minimiserons les choses, et nous nous retrouverons alors dans une position, et c'est là que cela devient dangereux. Nous nous contenterons d'un rapide coup d'œil, tout comme pour notre purge du levain. Si vous vous contentez de faire le tour de la maison et que c'est un aspirateur normal, en vous disant simplement « Oh, j'ai tout aspiré. » Tout le levain a disparu. Tout le péché est sorti de ma vie. Ce truc de christianisme, c'est simple. Si nous faisons cela, nous arrivons à la Pâque, nous prenons ces symboles, et nous le faisons indûment. Nous le faisons sans penser au sacrifice que Jésus-Christ a fait. Nous les prenons sans apprécier tout ce qui nous a été donné. Et alors nous le faisons indûment. Et puis, comme nous le lirons plus tard, la Bible dit que certains meurent parce qu'ils n'honorent pas le sacrifice physique de Jésus-Christ. C'est grave. C'est une affaire sérieuse. Jérémie 17. Jérémie 17, à partir du verset 5. Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et dont le cœur s'éloigne de l'Éternel. Si nous mettons notre confiance dans l'homme, en nous-mêmes ou dans les autres, notre cœur peut s'éloigner du Seigneur. Il n'est pas dit, maudit soit l'homme qui se confie en ses frères et sœurs en Christ. D'une certaine manière, vous pouvez vous faire confiance les uns aux autres. Vous travaillez ensemble. Mais cela devient une malédiction lorsque nos cœurs s'éloignent du Seigneur. Verset 6, car il sera comme un foyer dans le désert, et il ne verra pas venir le bien. Mais il habitera les lieux arides du désert, dans une terre salée et inhabitée. Verset 7, heureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. Il ne s'agit pas seulement de se confier en Dieu, mais Dieu est notre espérance, car c'est en fin de compte le chemin du salut, le chemin pour faire partie de la famille de Dieu. C'est là que réside notre espérance. Le sacrifice du Christ, Dieu le Père qui dirige et guide tout ce qui se passe autour de nous. Nous devons avoir confiance en cela. Verset 8, car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le fleuve, et qui ne craint pas la chaleur quand elle vient, car cela ne l'affecte pas, puisque tu as de l'eau. Mais son feuillage restera vert. Il ne s'inquiétera pas pendant l'année de sécheresse, et il ne cessera pas de porter du fruit, car c'est une source d'eau constante. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous nourrit, nous comble et nous prépare. Et c'est là toute la mise en place du verset que tout le monde connaît. Verset 9, le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément mauvais, qui peut le connaître? J'aime toujours lire cette section dans son intégralité quand je consulte Jérémie 17, 9, car vous connaissez ce verset. On dit qu'il y a des versets à mémoriser. Il y a des versets à mémoriser, et puis il y a des versets qui sont gravés dans nos os. Et Jérémie 17, 9 fait partie de ceux qui sont gravés dans nos os, ce qui signifie que parfois, il nous est si familier que nous en oublions le contexte de ce verset. Il s'agit de faire confiance à Dieu, et non à nous-mêmes, car notre cœur est trompeur par-dessus tout, désespérément mauvais. Au verset 10, moi, l'Éternel, je sonde le cœur, je scrute les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, ou selon le travail qu'il accomplit. C'est pourquoi l'introspection est difficile, car notre tendance naturelle est d'ignorer ce que nous faisons de mal ou de le minimiser. Le plus souvent, nous le minimisons plutôt que de l'ignorer. En tant que chrétien, vous n'allez pas dire, bon, j'ai tué quelqu'un. Je sais que c'est un péché, mais tant pis. Non, peut-être que le meurtre est un peu trop fort, car il est difficile de minimiser cela. Mais disons que, quoi que ce soit enfreindre le sabbat, ou prendre le nom de Dieu en main, quelque chose de ce genre. Et vous dites, oh, c'était juste une fois, c'était un accident, ou quelquefois, mais ce n'est pas quelque chose qui vient de mon cœur. C'est là qu'il faut faire attention quand on s'examine soi-même, qu'on identifie ses zones, ce levain qui se trouve au plus profond de nous tous, et qu'on s'en débarrasse. Ne pas dire, ce ne sont vraiment que des miettes. J'ai déjà passé l'aspirateur ici. Tu sais quoi? Je n'ai pas besoin de repasser là-dessus. On ne le voit même pas. C'est ce que nous pouvons faire spirituellement à nous-mêmes, à notre cœur, à nos intentions. Il est essentiel que nous permettions à Dieu, par sa parole, de sonder nos cœurs, de sonder nos sentiments, nos intentions, nos motivations, tous ces éléments qui sont des choses, des détails et des traits de caractère que vous et moi avons tendance à simplement ignorer. Car c'est ce que nous faisons, nous les ignorons, nous les minimisons ou nous les banalisons. Et ce n'est pas ce que nous faisons à cette période de l'année. Nous les éliminons. Le meilleur exemple pour chasser le levain ou le péché de nos vies, c'est lorsque vous nettoyez votre voiture. Et autrefois. Bon, maintenant que j'ai un enfant de 8 ans, j'ai quelqu'un pour se glisser sous les sièges à ma place et fouiller dedans. Et lui, il trouve cela génial, alors je suis ravi de lui déléguer cette tâche. Car, au fil des ans, combien de fois m'est-il arrivé de finir de nettoyer la voiture, de me retrouver dans des positions bizarres parce que j'essayais d'attraper ceci ou cela en passant l'aspirateur, puis de m'éloigner en me disant, ça va me faire mal demain. Mais ces contorsions, ces fouilles et ces efforts pour retirer ce levain, nous les faisons de manière équilibrée. Mais c'est ce que nous devons vraiment faire dans nos cœurs, fouiller, chercher, trouver, passer notre vie au crible et nous aider, avec l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, pour nous aider à voir ces domaines que nous préférerions ignorer ou que nous risquons d'ignorer. Les deux sont possibles. Et demandons à Dieu de mettre ces domaines en lumière. Montre-nous où nous devons faire mieux. Montre-nous ce qui nous manque. Montre-nous ce que nous minimisons dans notre cheminement chrétien. Frères et sœurs, l'introspection n'est pas censée être facile. Un être divin est venu sur terre, n'a jamais péché, n'a jamais rien fait de mal, et il a été battu brutalement. Il a été pendu à une croix. Il a été raillé et ridiculisé, a souffert la douleur et l'agonie, et a traversé tout cela pour que vous et moi puissions avoir une chance de vie éternelle, pour que vous et moi puissions être guéris grâce à ses souffrances physiques. Pour que vous et moi puissions être justifiés devant Dieu le Père. Cela n'a pas été facile. Lorsque nous prenons ces symboles, que nous entendons le pain rompu, que nous buvons le vin en elle, et que nous écoutons la lecture des Écritures, ce n'est pas facile, et notre préparation ne devrait pas l'être non plus. Notre examen de conscience doit être difficile et exigeant, et nous amener véritablement à réfléchir aux aspects de notre vie qui doivent ressembler davantage au Christ. C'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit d'être comme notre frère en Christ, notre grand frère, Jésus-Christ, de devenir davantage comme lui. À chaque période de l'année, nous devrions nous en rapprocher davantage, et non pas prendre cela à la légère. Hébreux, chapitre 4. Hébreux 4. Nous commencerons au verset 11. Hébreux 4, verset 11. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Car la parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Verset 13. Il n'y a aucune créature qui ne soit manifeste à ses yeux. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Nous ne pouvons pas cacher le péché à Dieu. Nous pouvons le cacher à nous-mêmes. Nous pouvons le cacher aux autres êtres humains, mais nous ne pouvons pas le cacher à Dieu. Et si nous voulons devenir meilleurs, si nous voulons devenir plus efficaces, si nous voulons ressembler davantage au Christ, si nous voulons faire partie de la famille de Dieu, nous devons demander à notre Créateur de nous montrer les domaines où nos intentions et les pensées de notre cœur sont mauvaises, et comment y remédier, comment les corriger. Et ce n'est pas comme appuyer sur un bouton. Quand vous et moi découvrons quelque chose qui ne va pas chez nous, ce n'est pas comme appuyer sur un bouton. Il y a peut-être certaines choses qui sont plus faciles à changer, mais il y a souvent, nous portons tous une croix, nous portons un fardeau. Il y a des penchants dans nos vies qui sont plus difficiles à surmonter, et nous pouvons lutter pendant des années et des années contre eux. Nous pouvons les cacher à nous-mêmes pendant des années et des années. Alors, quand elles remontent à la surface, quand Dieu nous montre ce défaut, ou cette partie de nous qui a besoin d'être améliorée, ce n'est pas aussi simple que « Oh, c'est bien. D'accord, je vais allumer la lumière. » Éteindre la lumière, appuyer sur l'interrupteur, onomatopée, c'est fait. Non. Il s'agit de se repentir, de changer de cap, de prendre une autre direction et de suivre ce chemin. Cela prend du temps. Surmonter les difficultés prend du temps. Ce n'est pas instantané. Être bon en quoi que ce soit prend du temps. Un examen juste consiste à demander à Dieu, « Pourquoi est-ce que je fais ces choses ? Qu'y a-t-il en moi, Dieu, qui me pousse à faire cette erreur ? Que vois-tu que je ne vois pas ?» Toutes ces questions que tu peux poser à Dieu dans la prière et l'étude. Aller au cœur du sujet, à l'essentiel, et pas seulement, « J'ai ce problème particulier. Pourquoi ai-je ce problème ? Quelle est l'intention de mon cœur qui est mauvaise, qui fait que cela se reproduit ? C'est là la différence cruciale. Et si nous permettons à Dieu de nous aider à examiner notre cœur aussi profondément, oh, alors nous allons au-delà des péchés évidents. C'est facile de dire, tu sais quoi ? Ma faiblesse, ce sont les sandwichs au jambon. En réalité, je n'ai pas de faiblesse pour les sandwichs au jambon. J'en ai parlé trois fois, donc j'ai besoin d'un meilleur mauvais exemple. Je ne pense pas avoir mangé de jambon, ouah, cela fait très longtemps. Je dirais que la dernière fois, c'était probablement quand j'avais à peu près l'âge de mon fils. Mais cela pue aussi. Avez-vous déjà senti l'odeur du bacon en train de cuire ? On a. Oh, après avoir passé un certain temps à l'église, où l'on mange des aliments sains, et quand on retourne aux autres, on peut passer devant un. Bon, peu importe, je m'égare. Je trouverai autre chose que des sandwichs au jambon. Du homard. Donc la prochaine fois que j'en parlerai, ce sera du homard. Bon, continuons. Point numéro 3. Point numéro 3. Donc, si nous dépassons nos péchés évidents, parce que Dieu nous a aidés, que nous avons examiné notre cœur, cela nous permet de commencer à regarder plus profondément les péchés plus discrets, les péchés plus cachés, ce que, encore une fois, nous excusons ou que nous négligeons. Donc, point numéro 3, nous devons examiner les péchés que nous excusons, pas seulement ceux que nous remarquons. Encore une fois, le point numéro 3 est le suivant, nous devons examiner les péchés que nous excusons ou que nous négligeons, pas ceux que nous remarquons. C'est l'un des plus grands dangers, si nous cochons quelques péchés évidents, nous avons l'impression d'en avoir fini. Nous avons fait. Bon, tu sais quoi ? Je me mets trop souvent en colère. Je dois me concentrer là-dessus. Je vais essayer de ne plus me mettre en colère aussi souvent. Je dois faire davantage confiance aux gens et ne pas. Tu as réglé ces problèmes évidents. Tu sais quoi ? Je mange trop, c'est un problème de gourmandise. Je dois donc travailler sur mon alimentation. Je ne fais pas d'exercice, je ne prends pas soin de mon corps. Je vais donc mettre en place une routine pour être en meilleure santé, pour mieux faire ceci, cela ou autre chose. Si nous abordons quelques-uns de ces péchés physiques, extérieurs et évidents, le danger est alors de nous arrêter là. Nous ne continuons pas à creuser, à aller plus loin et à examiner plus en profondeur. Nous devons déterrer, encore une fois, le levain caché dans nos vies, pas seulement la miche de pain posée sur le comptoir qu'il est facile de prendre et de jeter à la poubelle. Ce sont ceux qui se trouvent dans les recoins cachés qui sont plus difficiles à débusquer. Allons au livre des psaumes. Le psaume 19. Le chapitre, ou plutôt, pas le chapitre, mais le psaume 19. Je vous laisse le trouver. Psaume 19, verset 11. Psaume 19, verset 11. Par eux ton serviteur est averti. Et il y a une grande récompense à les observer. Verset 12. Qui peut comprendre ses erreurs? Purifie-moi de mes fautes cachées. C'est donc un psaume de David. Verset 13. Garde aussi ton serviteur loin des péchés de présomption. Qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, et je serai innocent de la grande transgression. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, ô Éternel, ma force, mon Rédempteur. David voulait être purifié de ses fautes cachées. Cachées à ceux qui l'entouraient? Oui, probablement. Cachées aussi à lui-même. Car souvenez-vous, Dieu veut comprendre les intentions de notre cœur. Il veut que nous les connaissions, car ces intentions mènent à des péchés secrets qui se produisent dans nos vies et que nous permettons parce que nous n'en comprenons pas la cause profonde. C'est là tout l'intérêt de l'examen de conscience. Il ne s'agit pas de mettre des pansements sur les problèmes de notre vie. Il s'agit d'aller à la racine du problème et de dire, voilà le problème. Ce péché secret, cette attitude secrète qui se manifeste dans ma vie, c'est ce qui cause toutes ces autres choses. C'est cela, le vrai changement. Ce n'est pas simplement un pansement en surface et des paroles sur la nécessité de nous améliorer. Et David était un homme converti. C'était un homme converti qui comprenait qu'il pouvait y avoir en lui des choses qui lui étaient secrètes, même à lui-même, et qui pouvaient se transformer en péché d'orgueil si on ne s'en occupait pas. Elles commencent à régir notre vie parce qu'on leur laisse le temps de s'enraciner et de devenir une partie intégrante de ce que nous sommes. Lorsque nous nous examinons, nous devons demander, Dieu, montre-moi ce que je ne vois pas en moi, ou lire le psaume et citer David en disant, Dieu, montre-moi mes péchés secrets. Nous avons tous quelque chose, car nous sommes humains, nous sommes de chair. Il y a des aspects de nous-mêmes, chez chacun d'entre nous, que nous ne voulons tout simplement pas regarder en face, parce que c'est peut-être difficile, que cela remonte à longtemps, quelle qu'en soit la raison. C'est le moment de l'année où l'on peut repartir à zéro, car si nous entrons dans la Pâque après avoir travaillé sur nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Car même lors du service de la Pâque, nous parlons du fait qu'il s'agit d'un nouveau départ annuel. Lorsque nous prenons les symboles, nous sommes remis à zéro physiquement et spirituellement. Nos ardoises sont effacées, ce qui signifie que nous sommes entrés dans le service de la Pâque avec des péchés. Nous en avions. Sinon, nos ardoises auraient été effacées avant que nous ne nous asseyions sur la chaise ce soir-là. Mais tout est une question concernant le travail que nous accomplissons pour y parvenir, ce que nous essayons d'améliorer, de surmonter, d'examiner et d'éliminer. Passons au livre des Proverbes, chapitre 28. Le livre des Proverbes. Proverbe 28, tout près de la fin. Proverbe 28, verset 12. Verset 12. Quand les justes se réjouissent, c'est une grande gloire. Mais quand les méchants s'élèvent, l'homme se cache. Celui qui cache ses péchés ne prospérera point. Mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Pas envers les autres, mais envers Dieu dans la prière. Acceptez nos erreurs, acceptez que nous ayons du péché dans nos vies. Et alors, il nous accordera sa miséricorde. Verset 14. Heureux l'homme qui craint toujours. Mais celui qui endurcit son cœur tombera dans le malheur. Si nous disons que nous n'avons pas de péché secret, si nous n'avons pas ces intentions ou ces désirs que nous devons corriger, aborder et améliorer, nous tomberons dans le malheur. Nous nous mentons à nous-mêmes. Un péché excusé est un péché dissimulé. Nous ne le laissons tout simplement pas, nous ne sommes tout simplement pas honnêtes avec nous-mêmes, et nous ne prospérerons pas. Nous pouvons endurcir notre cœur au point de donner l'impression que tout va bien, mais à l'intérieur, nous échouons dans notre marche chrétienne. Non pas parce que nous sommes des ratés ou parce que quelqu'un autour de nous semble meilleur que nous. Toi et moi, peu importe depuis combien de temps tu es à l'église, quel âge tu as, si tu es jeune ou non, tu es un pécheur. C'est aussi simple que cela. Vous essayez de ne pas l'être, mais vous le faites quand même, parce que nous avons une nature charnelle. C'est pourquoi nous devons nous examiner nous-mêmes, nous présenter devant Dieu, célébrer la Pâque et faire table rase chaque année. Alors, ne vous comparez pas à ceux qui vous entourent. Comparez-vous à la parole de Dieu, et regardez en vous-même. Trouvez les domaines à améliorer. Et si, en regardant en vous, vous vous dites « Oh là là, il y avait bien plus que ce à quoi je m'attendais », ne vous laissez pas submerger par cela. Dites « Non, Dieu, je me suis examiné plus en profondeur cette année. Je vois plusieurs domaines sur lesquels je dois travailler. Vous n'allez pas tous les régler d'un seul coup. Non, choisissez un domaine, ou deux, ou trois, ou peu importe, selon l'ampleur, et dites, tu sais quoi? Je vais me concentrer là-dessus. Je vais faire une étude biblique sur ce sujet. C'est peut-être la colère. Vous réalisez que vous vous mettez facilement en colère. Tu sais quoi? Je vais me concentrer là-dessus et vraiment y travailler. Et Dieu comprend tes intentions. Donc, s'il te voit faire cela, cela lui convient, car c'est l'attitude qui compte. C'est le désir. C'est cette volonté de s'améliorer qui nous permet, à toi et à moi, d'assister dignement au service de la Pâque, si tu veux, avec la bonne attitude. Verset 12. Ou pardon, Hébreux 12. Hébreux, chapitre 12. Car si nous ne le faisons pas, nous pouvons nous heurter à un autre problème. Hébreux chapitre 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous les hommes, et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez avec soin à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume, en poussant, ne vous trouble, et que par elle plusieurs ne soient souillés. À ce qu'il n'y ait pas de débauchés, ni de profanes, ni d'Ésaü, qui pour un morceau de pain a vendu son droit d'aînesse. Si nous ne veillons pas avec diligence, si nous n'examinons pas correctement, alors cette racine d'amertume, lorsque nous essayons de réprimer ou de dissimuler nos péchés, commencera à se former. Car savez-vous ce qui se passe avec le temps? Lorsque nous ne voulons pas admettre que nous péchons, ou ce qu'est-ce péché, à nous-mêmes et à Dieu, et non aux autres. Encore une fois, quand je dis « admettre », je parle à Dieu. Peut-être en parlez-vous aussi à un pasteur ou à un conseiller, mais ce n'est généralement pas le cas. Nous commençons à trouver des justifications pour expliquer pourquoi ce n'est pas grave. Et cette justification reviendra toujours sur le fait que quelqu'un d'autre a fait quelque chose de mal, ou que l'Église a tort, ou que cet enseignement est erroné, ou que cette personne a tort. Quoi qu'il en soit, nous laissons l'amertume ou autre chose détourner notre attention. Et c'est exactement ce que veut Satan. Il veut que vous vous concentriez sur les attitudes des autres, ou sur la façon dont vous interagissez, et que vous laissiez l'amertume s'installer, afin que vous ne travailliez pas sur le péché. Car il veut que vous péchiez. Dieu ne le veut pas. Satan, oui. Et c'est dangereux, car le passage dit même, beaucoup sont souillés, parce que cela s'installe. Bon, passons à 1 Corinthiens chapitre 5, pour continuer. 1 Corinthiens 5, 1 Corinthiens chapitre 5, et commençons tout au début du chapitre, au verset 1, il est rapporté de manière générale qu'il y a des fornications parmi vous, et une telle fornication n'est même pas mentionnée parmi les païens, à savoir qu'un homme est la femme de son père. Corinthe n'était pas exactement la congrégation modèle de la vie chrétienne. Et pire encore, il y a quelqu'un qui couche avec sa belle-mère. Bon, ce n'est pas une communauté comme on en voit tous les jours. Je n'ai entendu aucun pasteur, au XXIe siècle, signaler que c'était un problème dans sa congrégation. Prenons donc cela comme un bon signe. Verset 2. Et vous vous enorgueillissez, donc vous en êtes en quelque sorte fier. Mais que se passe-t-il ici? Vous n'auriez pas dû, vous auriez dû vous en affliger. Passons au verset 5. Livrez cet homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Verset 6. Votre gloire n'est pas bonne. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu de ce péché s'introduit. Un peu de ce levain, et il commence à se répandre, tout comme la levure se répand dans la pâte. Purifiez-vous donc du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, comme vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Ainsi, à l'approche de ce temps, nous pourrions dire, célébrons donc la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Parce que nous avons fouillé au plus profond de nous-mêmes, que nous avons regardé en profondeur, que nous avons essayé de déterminer les domaines où nous avons failli, ceux où nous avons bien agi, et ce que nous devons changer en parcourant ce chemin. Mais même si toutes ces choses sont présentes, frères, l'examen peut encore échouer si nous ne sommes pas pleinement honnêtes avec nous-mêmes devant Dieu. C'est, vous pouvez le voir un peu tout au long du message. Au fur et à mesure que nous parlons et que j'explique ces choses, vous pouvez voir que cela a beaucoup à voir avec le fait de nous voir tel que nous devons être vus, tel que Dieu nous voit, et de ne pas essayer d'enjoliver, de minimiser, de dissimuler ou de fuir, peu importe comment vous voulez l'exprimer, les aspects de notre caractère qui doivent être abordés. Donc, quatrième point, nous devons examiner si nous sommes fidèles et pleinement honnêtes avec nous-mêmes. Quatrième point, nous devons examiner si nous sommes pleinement honnêtes avec nous-mêmes. Nous pouvons avoir les bonnes normes en place. Nous pouvons nous livrer à une introspection. Mais cela peut échouer si nous ne sommes pas sincères avec nous-mêmes. Notre esprit adoucit le passé. C'est pourquoi les gens peuvent traverser des épreuves incroyablement terribles et s'en sortir, ou voir des choses terribles et être capables de les oublier. Ça s'estompe. C'est ainsi que notre esprit est fait. Mais si nous laissons cela se produire au fil du temps avec le péché, nous commencerons à tirer des conclusions différentes ou à faire des analogies différentes. Revenons au psaume 139. Le psaume 139, verset 23. Je vais boire un verre pendant que vous tournez la page. Verset 23 du psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Verset 24. Vois s'il y a en moi quelque voie mauvaise, et conduis-moi dans la voie éternelle. Ce n'est pas seulement important, mais aussi inspirant, mes frères. Dieu peut nous éprouver, nous tester et nous montrer nos problèmes. Mais en même temps, s'il découvre et nous montre qu'il y a en nous des voies mauvaises et des péchés cachés, il peut nous conduire dans la voie éternelle. Dieu peut nous montrer le chemin pour sortir du péché. Il peut nous montrer la voie à suivre pour vaincre. Il peut nous donner la force dont nous avons besoin pour vaincre et traverser ces épreuves, ces tests, ces moments difficiles où nous nous disons, oh, c'est quelque chose qui fait partie de mon caractère. Il peut nous montrer la voie de sortie, mais seulement si nous le laissons faire, seulement si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes. Un examen honnête, c'est être disposé à chercher la correction, accepter d'être mis à nu et guidé, et laisser Dieu créer ces moments dans nos vies où nous changeons de direction et agissons correctement. Passons à la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 1. 1 Jean 1, à partir du verset 5. 1 Jean 1, 5. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière, et il n'y a aucune ténèbre en lui. C'est la lumière pure. Verset 6. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Donc, toute ténèbre. Dieu est lumière pure. Donc, si nous avons de l'obscurité en nous et que nous marchons dans cette obscurité, il y aura donc un certain degré d'obscurité dans la chair, car nous sommes chair. Mais si nous marchons dans les ténèbres, si nous les pratiquons, nous ne pratiquons pas la vérité. Nous n'obéissons pas à Dieu. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si vous et moi jamais, la plupart ne le feraient pas avec des mots. Nous ne dirions pas, tu sais quoi? Il n'y a pas de péché en moi. Je n'ai pas d'idole. Je suis parfait. Les gens ne disent pas cela. C'est ce qu'ils font qui démontre que c'est ce qu'ils ressentent. Si nous agissons et nous comportons comme s'il n'y avait pas de péché dans nos vies, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous minimisons le péché. Nous essayons de minimiser la période de l'année dans laquelle nous nous trouvons, la période d'examen. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Encore une fois, ce ne sont pas nos paroles, mais nos actions. Si nous ne nous examinons pas, si nous ne nous permettons pas d'être complètement ouverts à ce que Dieu nous montre, nous disons que nous n'avons pas de péché. C'est ce que nous disons, par nos actions. Lors d'un examen de conscience, nommez le péché sans détour, sans ambiguïté, clairement, et mettez-le en lumière, puis ayez confiance que Dieu nous aidera à en sortir, à être capable de faire et de changer ce qui doit changer, afin que vous et moi puissions vivre correctement, car nous pouvons nous tromper nous-mêmes. C'est facile à faire. Souvenez-vous, Jérémie 17, 9. Notre cœur est désespérément mauvais. Qui peut le connaître? 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27. 1 Corinthiens 11, 27. C'est pourquoi, quiconque mange ce pain et boit cette coupe. Passons directement au service de la Pâque. Nous entendrons cela ce soir. Et bois cette coupe du Seigneur indûment, ou sans révérence, C'est ce que cela signifie vraiment, serait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais le verset 28 dit, que chacun s'examine lui-même. C'est là la différence entre célébrer la Pâque correctement et incorrectement. Vous pouvez donc réfléchir longuement à ce message. Nous étions en train de préparer le terrain pour ce verset fondamental dont nous parlons. Mais que chacun s'examine soi-même, et qu'il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car si quelqu'un mange et boit indûment, c'est-à-dire sans respect, il mange et boit sa propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. C'est pourquoi il y a parmi vous des faibles et des malades, et beaucoup dorment ou meurent. Donc, des maux physiques et la mort, parce que les gens choisissent de ne pas s'examiner eux-mêmes. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin de ne pas être condamnés avec le monde, parce que nous avons fait ce qu'il fallait pour être capables de voir les problèmes en nous-mêmes et d'apporter des changements concrets pour nous améliorer, grandir, nous développer. Frères et sœurs, voilà la marche. Voilà le chemin chrétien. Voilà la vie que nous menons. Voilà ce que signifie vivre le christianisme, voir nos défauts, changer ses défauts et devenir davantage comme le Sauveur que nous avons, qui s'est sacrifié pour nous donner accès au Père et à l'Esprit de Dieu. C'est ce que nous devons vivre et faire. C'est la tâche qui nous a été confiée personnellement. Nous devons nous juger nous-mêmes, car une fois que nous sommes honnêtes avec Dieu au sujet de ce qu'il nous montre, une fois que nous acceptons ce qu'il nous montre, nous ne le cachons pas, ne le minimisons pas et ne le minimisons pas. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Encore un pas. Nous devons ensuite prendre cela et passer à la repentance. Donc, point 5. Un examen juste doit produire une repentance spécifique. Un examen juste doit produire une repentance spécifique. Nous n'en avons pas fini lorsque nous réalisons que nous avons des problèmes. C'est bien. C'est un grand pas, mais accepter que nous ayons des problèmes, c'est énorme. On ne peut pas s'améliorer tant qu'on n'a pas diagnostiqué le problème. On ne peut pas réparer la voiture tant qu'on n'a pas compris d'où vient ce bruit sourd. Que ce soit un élément desserré dans la voiture, le hochet d'un enfant ou quoi que ce soit d'autre, tant qu'on n'a pas diagnostiqué le problème, on ne peut pas y remédier ni le résoudre. Mais un examen correct doit produire une repentance spécifique. C'est l'étape suivante pour aller de l'avant, changer et montrer que tout ce processus avait un sens. L'examen ne consiste pas à découvrir le problème. Il s'agit de découvrir un problème à résoudre, pour lequel se repentir. Deuxième épître aux Corinthiens, nous y sommes presque, chapitre 7. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 7. Nous commencerons au verset 8. 2 Corinthiens 7, 8 Car, bien que je vous ai attristé par ma lettre, je ne me repens pas, bien que je me sois repenti. Car je vois que cette même lettre vous a attristé, bien que ce ne fût que pour un temps et pour une raison. Verset 9. Maintenant, je me réjouis, non pas que vous ayez été attristés, mais que votre tristesse ait conduit à la repentance. Ainsi, à ce moment où sa lettre les a piqués, cela leur a donné envie de changer. Rappelez-vous, nous avons lu dans la première épître aux Corinthiens qu'il y avait un garçon qui couchait avec sa belle-mère, et que la congrégation en était en quelque sorte fière. Et il a été dur avec eux. Et ils étaient attristés, mais cette tristesse, cette correction, a conduit à la repentance. Continuons ici. Car vous avez été attristés d'une manière pieuse, afin de ne subir aucun préjudice de notre part. Car la tristesse pieuse produit une repentance qui mène au salut, et dont on ne se repent pas. Mais la tristesse du monde produit la mort. Ainsi, si ceux qui sont dans le monde éprouvent de la tristesse parce qu'ils ont été pris sur le fait, cela mène à la mort. Cela ne mène pas au changement. La plupart du temps, on voit des gens qui sont en prison, ou qui sont toxicomanes, ou dont la vie est un désastre. Ils ont du mal à s'en sortir parce que, sans l'Esprit de Dieu, ils ne peuvent pas changer. Ils retombent dans les mêmes schémas. Mais avec l'Esprit de Dieu, ils peuvent changer. Nous pouvons changer. Vous pouvez changer. Je peux changer. Continuons. Pour la même chose, vous avez éprouvé une tristesse selon Dieu, quelle vigilance cela a-t-il produit en vous, quel nettoyage de vous-même, oui, quelle indignation, vous vous mettez en colère quand vous voyez le péché dans votre vie, et oui, quelle crainte à cause de ce qui pourrait arriver. Quel désir ardent, quel zèle, quelle vengeance, si nous nous sommes repentis et avons changé. Et toutes ces choses, vous avez prouvé que vous étiez pur en cette matière. Lorsque nous voyons où nous avons failli, nous prenons cette erreur et l'appliquons, par la direction et les conseils de Dieu, peut-être par le ministère, quel que soit le cas de elle, pour ensuite changer des éléments de notre vie, et nous nous repentons, nous nous détournons. C'est cela, la repentance. C'est se détourner et emprunter un chemin différent. C'est alors que le processus d'examen porte ses fruits. Il nous permet d'apporter un changement positif dans notre propre vie. Il nous permet de nous rapprocher du moment où nous serons prêts à faire partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi cette période de l'année est si importante. La préparation de la Pâque est si importante parce qu'elle nous rend, vous et moi, plus semblables à Dieu. En éliminant les choses qui nous distraient, nous tirent vers le bas, nous freinent ou nous font douter, ou quoi que ce soit d'autre, lorsque nous regardons au plus profond de nous-mêmes, que nous en prenons conscience et que nous apportons un changement, certaines de ces choses disparaîtront tout simplement de nos vies. Ce qui est extraordinaire dans le christianisme, c'est que Dieu vous révèle certains éléments dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Et vous y travaillez pendant un certain temps, puis vous y parvenez. C'est l'un des aspects les plus merveilleux et les plus gratifiants du métier de pasteur, du fait de travailler avec quelqu'un. Les gens viennent vous voir et vous demandent conseil parce qu'ils essaient de surmonter un obstacle quelconque dans leur vie, et ils y parviennent. Le fait de faire partie de ce processus, où ils avaient un problème, l'ont identifié, ont cherché des conseils pour le surmonter, puis l'ont surmonté. Pouvoir faire partie de ce processus avec des dizaines, des milliers ou quel que soit le nombre de personnes, c'est l'un des plus grands honneurs du métier de pasteur. Passons à Ésaïe 55 alors que nous arrivons à la fin. Ésaïe 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 6-55. 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, et il aura pitié de lui. Et notre Dieu lui pardonnera abondamment. Il n'est jamais trop tard pour se repentir, du moins pour nos vies et notre cheminement. Il y a un moment dans l'avenir où les gens devraient l'avoir fait. Mais comme nous l'avons appris tout au long de cette série et de cette réflexion, Dieu est bien plus miséricordieux que nous ne l'avons jamais imaginé. Toutes les choses qu'il permet, les erreurs qu'il passe sous silence, si nous choisissons de changer plus que nous ne pourrions jamais l'imaginer, car il est dit au verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit le Seigneur. » Dieu aborde les situations très différemment de nous. Il voit les choses très différemment de nous. Il y réfléchit d'une manière que nous ne comprenons pas. Nous avons donc besoin de lui pour nous aider non seulement à voir les problèmes dans nos vies, mais aussi pour avoir la force et le chemin pour les surmonter. Et si nous le faisons et que nous nous préparons, Dieu nous pardonnera. Il ne veut pas que nous péchions. Il ne veut pas que nous nous sentions abattus, troublés et accablés. C'est cela, le christianisme. C'est la vie abondante qui nous est donnée. On nous donne l'occasion de grandir et de changer. Ce n'est pas courant dans le monde. Toutes ces vidéos de développement personnel et ces approches du genre « débrouillez-vous tout seul » ne fonctionnent pas partout. Ça, cela marche. Quand les gens vivent ainsi, font confiance à Dieu, laissent son esprit les transformer, cela marche toujours. Revenons au Nouveau Testament, au chapitre 4 de l'Épître de Jacques. Jacques, chapitre 4, verset 6. Jacques 4, 6. Reprenons un peu au milieu ici. Mais il donne plus de grâce. C'est pourquoi il a dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Satan s'en ira si vous vous soumettez à Dieu. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, vous les pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous les indécis. Soyez affligés et pleurez. Et certaines choses peuvent être suffisamment importantes pour que vous vous disiez, « Vous savez quoi ? J'ai besoin d'être affligé. J'ai besoin de jeûner à ce sujet, pour me rapprocher de Dieu. » Pleurez et gémissez. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10, « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Il vous fortifiera, vous donnera ce dont vous avez besoin pour vaincre. Faites tout ce qui est nécessaire pour que vous et moi puissions aller là où nous pourrons regarder ce péché qui est désormais derrière nous, parce que nous avons fait notre examen de conscience. Nous avons creusé en profondeur, nous avons réfléchi à tout ce qui devait être fait, et nous nous sommes assurés d'être prêts. Assurons-nous que lorsque nous nous asseyons, que nous prenons ce pain et ce vin, nous nous sommes examinés de manière à être meilleurs qu'au moment où nous avons commencé. Pas parfait, mais allant dans la bonne direction d'une manière renouvelée, d'une nouvelle façon. D'accord. Enfin, revenons au chapitre 18 d'Ézéchiel. Le dernier verset ici. Ézéchiel 18, verset 30. Ézéchiel 18, 30. C'est pourquoi je vous jugerai, maison d'Israël, chacun selon ses voies, dit le Seigneur Dieu. Repentez-vous, détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne soit pas votre ruine. Verset 31. Rejetez loin de vous toutes vos transgressions. C'est ainsi que vous avez transgressé. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau, car pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël ? Ou bien nous pourrions dire, nous tous. Car je ne prends aucun plaisir à la mort de quiconque, dit Dieu. C'est pourquoi, convertissez-vous et vivez. Frères et sœurs, vous et moi avons reçu l'occasion de nous examiner nous-mêmes, ayant en nous l'Esprit de Dieu qui nous guide, nous dirige et nous aide à sortir du péché pour nous repentir, changer, devenir meilleurs, plus efficaces, puis aller au service de la Pâque et être purifiés. Il ne nous reste plus qu'à le faire. Creuser, examiner, étudier, identifier les domaines où nous devons nous améliorer. Tout comme ce pilote ou l'équipage de ses vols, il vérifie encore et encore, vérifie encore et encore, vérifie encore et encore. Tant de fois, vous n'avez probablement pas mémorisé la position des tablettes, l'emplacement de la carte que vous consultez, l'emplacement des rangées de sortie, tout cela, parce que c'est ancré dans leur mémoire, mais ils le font toujours. Ce qui nous attend, vous et moi, lors de la Pâque est très, très sérieux, c'est très personnel. Le sacrifice du Christ, le prix de nos péchés, le fait que nous nous présentons devant Dieu, et aucun de nous ne peut se reposer sur le fait que nous l'avons déjà fait, même si nous le faisons depuis des décennies. Nous devons nous examiner honnêtement devant Dieu. Nous devons savoir qu'il va scruter nos cœurs et espérer qu'il le fasse, et nous attendre à ce qu'il le fasse. Notre préparation doit être personnelle. Nous devons demander à Dieu de nous montrer ce que nous devons changer, puis de nous donner la force d'aller de l'avant pour nous repentir. Soyons donc capables de nous concentrer sur la Pâque avec sincérité et vérité. À l'approche de cet événement, il nous donne, à vous et à moi, l'occasion de nous arrêter, de nous examiner, de nous juger nous-mêmes, de nous repentir et de nous présenter devant lui dans le bon esprit. Le temps de l'examen est venu. Le travail de repentance pour vous et moi ne peut attendre. Préparons-nous donc dès maintenant afin de célébrer la Pâque dignement, avec la bonne attitude et le bon esprit, et d'une manière qui honore celui qui s'est sacrifié pour nous.